Donc, vous me demandez en ce qui concerne le Parlement européen. C'est vrai que il y a une évolution qui a été positive à partir du moment où les députés européens ont été élus au suffrage universel direct en 1979, mais aussi les différentes étapes de montée en puissance du Parlement européen, la conquête de nouveaux pouvoirs financiers, l'élection sur la désignation du président de la Commission européenne, etc. Reste que le Parlement européen, c'est un Parlement un petit peu particulier pour des tas de raisons, et notamment le fait que les élections européennes se font essentiellement, et on le verra dans peu de temps, dans un peu plus d'un mois maintenant, sur des enjeux essentiellement nationaux, les gens votant par rapport à certains rapports de force entre les partis politiques au niveau national. Ça, c'est le problème essentiel. Et alors ça, c'est ce qu'on verra dans un mois et demi. Je ne pense pas que les choses auront changé par rapport aux élections précédentes, avec un taux de participation qui est d'ailleurs plus faible que pour les élections nationales. La logique d'un consensus entre les deux grandes forces hégémoniques dans le Parlement européen, cherchant un consensus à tout prix, le fait que le Parlement européen traite de multiples questions, parfois extrêmement d'intérêt limité. Voilà, il y a toute une série de raisons qui font que le Parlement européen ne correspond pas tout à fait à l'idée qu'on se fait habituellement d'un Parlement. Alors effectivement, à partir du moment où des pouvoirs nouveaux sont conquis par le Parlement européen, on pourrait estimer que les citoyens européens se sentent davantage impliqués parce qu'ils se décident au niveau de Bruxelles. Mais ce n'est pas le cas. Quelques compétences nouvelles conquises, finalement, le désintérêt subsiste. Et pourquoi ? Parce que le processus décisionnel au niveau européen reste essentiellement un processus fermé, avec une domination de ce qu'il est convenu d'appeler les eurocrates, les groupes de pression, les groupes d'intérêt très influents à Bruxelles, avec les lobbies permanents qui pèsent sur les décisions et sur les propositions de la Commission européenne. Donc tout ça fait que malgré la conquête de nouveaux pouvoirs, malgré le fait que les débats soient beaucoup plus animés qu'auparavant au sein du Parlement européen, finalement, les citoyens se sentent toujours très éloignés de ce qui se discute au sein du Parlement européen. Alors, est-ce que c'est un petit peu la faute des députés européens eux-mêmes qui devraient, dans chacun de leurs pays, assurer une diffusion, une information sur ce que fait le Parlement européen ? En ce qui concerne la France, ce n'est pas du tout le cas. Alors, pour des tas de raisons, les listes européennes sont construites par les partis politiques en fonction de considérations politiques nationales. Beaucoup des parlementaires français élus au Parlement européen se désintéressant assez largement du Parlement européen. C'est pas le cas de tous. Certains parlementaires, je pense à quelqu'un comme José Bové, écologiste, et d'autres encore, se sont fortement impliqués dans le Parlement européen. Mais on a constaté, il faudrait voir la composition des listes prochaines, que certains des parlementaires français qui avaient été le plus impliqués dans les travaux du Parlement européen ne figuraient même plus en position éligible pour les prochaines élections.
Alors comment vous expliquez ça ?
Parce que les listes sont conçues en fonction d'équilibres politiques internes, d'équilibre par exemple pour le Parti socialiste entre les différents courants. Et je pense à quelqu'un qui a été un de mes amis, Olivier Duhamel, pour ne pas le nommer, qui avait été élu au Parlement européen, qui avait joué un grand rôle au sein du Parlement européen, il n'avait plus été mis en position éligible par le Parti socialiste, parce qu'il n'entrait dans aucun courant qui existait à ce moment-là au sein du PS, et donc il n'avait même plus été élu au Parlement européen. Il en a été d'ailleurs assez affecté.
Alors, le projet européen face aux États-nations, et puis on voit cette identification de plus en plus forte, même si vous voulez, avec la montée de l'extrême droite et tout ça. Très souvent, on explique cela avec la crise. Mais bien sûr, il y a des raisons qui sont beaucoup plus profondes que cela. Alors, que pensez-vous ?
Je pense que la crise a contribué très fortement à cela, à la montée de l'extrême droite en France et dans d'autres pays européens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique d'austérité qui a été imposée aux différents pays européens, une politique d'austérité que je trouve pour ma part, avec bien des économistes reconnus, et même avec maintenant le patron de la Banque Centrale Européenne, qui était une erreur catastrophique, parce que la politique d'austérité qui a été imposée à certains pays comme la Grèce, mais aussi l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, ne pouvait conduire qu'à une demande intérieure plus faible, et donc du même coup à une crise économique accentuée. Donc là, là je crois que c'est... alors ça conduit en plus à la négociation du traité sur la stabilité financière qui impose des contraintes durables à tous les pays européens. Que, là, c'est une impression d'être dépossédé cette fois de la conduite de la politique économique. Et donc du même coup, le désintérêt qui a toujours existé en ce qui concerne l'élection du Parlement européen est encore accentué par l'idée que l'Europe impose une série de choses dont les citoyens européens ne veulent pas. Il n'y a pas que l'extrême droite, il y a aussi, je pense au cas de la France, il y a aussi toute une série de mouvements d'extrême gauche qui sont aussi hostiles, non pas à l'Europe telle qu'elle est, mais pas à l'Europe en soi plutôt, mais à l'Europe telle qu'elle fonctionne réellement. Ça, je crois que c'est un élément qui est très important. Et un thème qui se développe beaucoup, c'est l'idée que l'Europe devrait être maintenue, mais comme monnaie commune. C'est-à-dire les monnaies nationales réapparaîtraient et l'euro, ce serait une monnaie commune. Donc voilà, même les partis, le Front National en France et le parti d'extrême gauche, sont d'accord sur le principe de la construction européenne, sont même d'accord maintenant avec l'euro, mais un euro conçu de manière différente et qui ne serait plus une contrainte lourde sur les États.
Et dans tous ces processus-là, quel est le rôle du citoyen, si vous voulez? Que peut-il faire en face?
Le rôle du citoyen, il est, je le dis, extrêmement faible. Extrêmement faible pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Et ce qui est quand même assez saisissant, c'est que la démocratie change dans tous les pays, devient une démocratie vivante, avec ses hauts et ses bas d'ailleurs, une démocratie qu'on appelle délibérative, où les citoyens peuvent s'exprimer, une démocratie participative, où ils peuvent participer au processus décisionnel. Et tout ça qui se fait au niveau national ne se produit pas au niveau européen. Il n'y a pas d'espace de débat au niveau européen. Alors la seule voie nouvelle, moi je n'y croyais pas beaucoup, c'est cette fameuse initiative citoyenne européenne, ICE, qui permet effectivement, dans un cadre assez rigoureux, qui donne un pouvoir de pétition. Et c'est vrai que les associations se sont précipitées sur cette voie. La première initiative citoyenne européenne a été sur le droit à l'eau. Le droit à l'eau qui a recueilli le nombre, je crois qu'il y a 1 million de personnes devaient signer, etc. Donc maintenant, il y a environ une dizaine d'initiatives citoyennes. Alors ça, est-ce que, je vous rappelle quand même qu'une fois réunies toutes les conditions, il faut encore que la Commission européenne soit saisie du problème et donne suite. Donc c'est même pas une garantie. On verra ce qui se passera. Cette initiative citoyenne existe maintenant depuis 2012, donc depuis peu de temps. C'est l'élément nouveau. L'élément nouveau est positif au regard de la démocratie, une démocratie plus vivante où les citoyens pourraient intervenir davantage.